Les interviews du doc, c'est maintenant sur Vinita.
Madame, messieurs, bonsoir. Merci d'être en direct pour nous parler de Jean et merci d'être avec nous pour nous parler de votre nouveau bébé, Mandarin Soul, qui sort le 15 octobre.
Salut tout le monde.
Merci. Eh ben, on va ouvrir la page donc Jean. Hein, donc un jeune groupe de rock stoner psychédélique. Voilà, ça court pas les rues. Hein, on en a quand même pas beaucoup en France. Des bons, on n'en a pas beaucoup. Moi, j'ai eu la chance d'écouter l'album. Hein. Alors, voilà, les six titres sont magnifiques. Moi, je vais encourager tout le monde à suivre ce qui va arriver dans les prochains jours pour pouvoir écouter cet album. En tout cas, le premier extrait, Black Circus, il est disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aller découvrir ce morceau. On l'écoutera juste après. Mais en tout cas, voilà, c'est un excellent album. On découvre plein de choses. Et puis, je pense que la première question, elle va être collégiale, les amis. En quelques mots, pour les auditeurs qui ne connaissent pas Jean, est-ce que vous pouvez vous présenter?
C'est qui commence?
Ça va bien.
On s'appelle Jean, du coup, et puis bah, comme tu l'as dit, on fait du rock psychédélique et on s'inspire beaucoup des années 70, beaucoup du rock progressif, et on essaye aussi d'avoir en même temps un son un peu plus moderne, un peu plus massif, qui s'inspire un peu du stoner, un peu du doom, un mélange de beaucoup de choses. Et puis on joue du coup avec une chanteuse harpiste qui joue de la harpe électrique et qui rajoute des sonorités assez spéciales, en fait, qu'on ne peut pas vraiment avoir avec d'autres instruments, à part peut-être avec des synthés, mais ça apporte aussi une atmosphère sonore, une esthétique sonore un peu différente peut-être par rapport à d'autres groupes de rock psyché qui sont en général plus basse, guitare, batterie, voix, et c'est tout.
Oui, en tout cas, c'est vrai, t'as ouvert tout de suite la page de la harpe, effectivement. Alors moi, je suis convaincu de cet instrument dans le monde du hard, et en règle générale du monde de la musique un peu voilà, branchée électrique, on va dire. Voilà, donc c'est ça amène effectivement quelque chose. Donc pour résumer aussi, pour nos amis auditeurs, vos influences, donc ça va de Cadaver à Electric Wizard à Canaan, Black Sabbath, Les Doors, et j'ai mis un magnifique t-shirt Pink Floyd, voilà, en pensant à vous tout à l'heure. Donc effectivement, c'est à travers tout ça, pour votre approche d'écriture, c'est quand même très très vaste, cette approche où, pour Pink Floyd, on peut dire il y a beaucoup de synthé, il y a beaucoup de choses qui sont très psychées, et il y a énormément d'albums, voilà. Et puis Cadaver, ce sont très gras, comme Black Sabbath à l'époque. Alors comment vous faites aujourd'hui pour vous organiser dans l'écriture de vos titres? Parce que avoir un tel panel d'influences, est-ce qu'il y a de la guerre dans le groupe quand il faut composer quelque chose? S'il y en a un qui est plus Pink Floyd que Cadaver, comment vous faites?
Non, au final, on s'organise plutôt bien parce qu'on a tous les quatre des influences qui sont très, très différentes. Et via les instruments qu'on utilise dans ce groupe-là, on arrive à canaliser ce qu'on peut apporter à Jean, en fait, ce qu'on peut apporter au groupe en lui-même. Et on jam énormément ensemble, on a énormément joué ensemble, donc on se connaît quand même assez bien musicalement. Et voilà, ça nous permet tout de suite de savoir qu'est-ce qu'il faut jouer pour que ça sonne comme du Jean et que voilà, ce soit un peu la moyenne des influences des quatre et qu'on s'y retrouve et que le projet aille plus loin.
Ouais. On a quand même un tronc commun d'influence, une base dans tout ce qui est effectivement 70s, psychédélique et prog. Après, chacun va avoir vraiment sa spécialité. Ses préférences et l'idée c'est de mixer le tout pour créer cet univers de Jean.
Puis on fonctionne aussi beaucoup, en fait à l'unanimité, donc pareil pour la composition, s'il y a une idée qui ne va pas à un seul membre du groupe, on abandonne l'idée ou alors on la fait évoluer. Mais ouais. On essaye de faire le moins de compromis possible en faisant en sorte que ça nous plaise à tous. Quoi.
C'est ça. Ouais. Puis on est dans quelque chose qui est dans une composition qui est assez narrative, qui est très dans l'illustration, donc ça nous permet aussi de faire des choix aussi un peu plus facilement parce que on va vraiment essayer de représenter des atmosphères, particulièrement dans l'album Mandarin Soul, ce qui va nous permettre un peu plus déjà de nous donner des axes et de nous orienter. En tout cas, dans le cas précis de cet album, c'était le cas.
Ouais, en tout cas, on découvrira l'univers de Jean à travers Black Circus dans un instant, puisqu'on va passer le morceau juste après. Ça va donner de la force à vos propos sur le morceau, parce qu'il est vraiment, il va un petit peu dans différents sons, dans différents sens. Et je pense que, alors, pour avoir écouté tout l'album, Voilà, le Black Circus, vous l'avez choisi parce que je trouve que ce morceau-là, il marque vraiment l'album et il marque vraiment les autres titres qui sont derrière. Et en fait, on peut se faire plaisir à découvrir à travers Black Circus ce qui nous attend après, en fait, hein.
Bah, c'est vraiment une introduction à l'album, puisque l'album en lui-même est un concept album, il raconte une histoire, et Black Circus, c'est la création. La création, le début, la création d'une âme qu'on va suivre dans différentes péripéties, dans une forme d'odyssée. Et dans Black Circus, ouais, c'est vraiment cette apparition, donc on commence à montrer un peu le panel de choses qui peut suivre ensuite dans l'album.
Oui, et pour rebondir sur ce que vous disiez juste avant, il y a aussi, avant d'arriver à ce disque, qui arrive le 15 octobre, hein, je le rappelle, vous avez quand même sorti trois disques, hein, il y a quand même deux lives. Donc en fait, vous avez pu travailler, je veux dire, à apprendre à vous connaître, à être beaucoup plus voilà, dans l'écoute des uns et des autres pour avancer, puisque les lives, les premiers albums qui sont sortis en 2016 et 2017, hein, ils s'appellent Live à l'étage et Live at Fog. Et puis derrière, il y a eu The Freak en 2019. Donc 2 ans après, vous revenez, on va dire, juste après la période Covid avec un nouvel album. Alors, est-ce que vous avez, comme beaucoup d'autres, passé beaucoup plus de temps à peaufiner ce nouvel album du fait du Covid et d'avoir peut-être plus de temps, alors je ne dis pas de temps libre parce que c'était compliqué, mais de temps à passer pour la création et la créativité et revenir peut-être sur des morceaux, comme vous le disiez à un moment où vous n'étiez pas sûr et reprendre et revenir et avoir le temps nécessaire pour sortir ce nouvel album?
Ouais, c'est vrai que le Covid, ça nous a permis quand même de rester plus longtemps en studio, parce qu'on avait des tournées de prévues juin 2021,
Ouais.
etc. Et donc, du coup, bah, ce temps qu'on n'a pas pu passer en tournée, on l'a passé en studio de répète et d'enregistrement, justement, effectivement, pour plus travailler l'album, s'approprier les chansons. Et puis, bah, je pense
Même
que.
si au final, avec le confinement, on a quand même eu une longue pause dans la composition et dans la préparation au studio, parce que bah, on n'a pas pu répéter, puisqu'il y avait Lali qui habitait en Normandie, moi et Alan à l'époque du premier confinement, on habitait à Rennes, ensuite moi je suis parti à Nantes, Tom était en Vendée, et du coup on était bien éparpillés, et c'était compliqué de pouvoir réussir à se voir, vu les restrictions de déplacement. Et puis il y avait un point aussi supplémentaire, c'est qu'on a pu passer plus de temps à répéter, mais habituellement on teste les morceaux en live, on les joue en live, souvent avant de les enregistrer. On a toujours été plus un groupe de live, à faire beaucoup de concerts, pas mal de tournées, et dès qu'on avait un album, des nouveaux morceaux, bah voilà, on les essayait en live. Alors, ça nous permettait après de pouvoir aussi peaufiner pour le studio. C'était une étape aussi pour nous avant le studio, qu'on n'a pas eu dans ce cas-là, puisqu'on n'a pas pu jouer l'album en live avant d'enregistrer. On l'a d'ailleurs pour l'instant bah, assez peu joué en live, hein, puisque on a énormément de concerts à l'heure actuelle.
Oui.
Mais voilà, puis initialement on pensait sortir l'album plus tôt aussi. On pensait plutôt le sortir début 2021. Mais bon, bah, avec le Covid, on a préféré attendre, repousser, et puis bref, différentes péripéties qui font que, comme beaucoup d'autres groupes en ce moment, cet album-là tarde un peu à sortir.
Oui, c'est un petit peu bah, tout le monde veut sortir, mais tout le monde attend que ça soit sorti. C'est un petit peu difficile de trouver le bon créneau entre les grosses sorties, les sorties plus petites, et puis de pouvoir vivre, parce que pour le coup, il faut pouvoir effectivement s'éviter de sortir au moment de Metallica, Iron Maiden ou AC/DC. Et pour le coup, ouais, ça évite aussi de se retrouver noyé dans la masse et de ne pas avoir la visibilité qu'on peut avoir. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié cet album. C'est une très belle découverte. Sincèrement, je vous l'ai dit au début, hein, je ne vous connaissais pas plus que ça. Voilà, donc découvrir un album, découvrir un univers, bah, ça m'a fait découvrir autre chose à côté. Et puis je pense que c'est aussi dans ce sens-là que ce soir on échange pour que les auditeurs puissent découvrir un nouvel univers. On parlait de la harpe, on parlait du rock psyché. Voilà, c'est quand même une destination où on ne va pas spécifiquement en ce moment. Alors est-ce que vous vous trouvez un petit peu en décalage par rapport à la scène actuelle?
Pas forcément, parce que il y a quand même un bon mouvement rock revival en ce moment, enfin déjà depuis quelques temps, où on retrouve énormément quand même de groupes qui s'inspirent des esthétiques 60s, 70s. Et donc finalement, on l'était peut-être plus quand on a commencé le groupe il y a 6 ans que maintenant.
Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de groupes qui s'en mettent à faire du psyché, du krautrock, du stoner aussi, mais sous différentes formes en fait des influences. Il y a le son stoner, mais qui va s'éparpiller vers du post-punk, post-hardcore, ou alors vers quelque chose de plus métissé, avec des influences, des influences un peu plus exotiques et plein d'autres choses en fait. Je pense que c'est dur de juste dire que c'est du rock psyché. La plupart des rock psyché, je pense qu'ils mélangent avec plein d'autres choses en fait, et c'est ça qui fait qu'on a l'impression que la scène est éparpillée. Mais je pense qu'il y a quand même une scène assez, enfin, qui commence à grossir quand même un petit peu à ce niveau-là, quoi.
Oui, puis il y a aussi, alors je parlais de rock psyché, mais je parle surtout de la partie progressive des années 70, hein, qui est fort dans le son. On reconnaît, voilà, beaucoup de choses de cette période-là. Alors moi, qui suis un vieux de la vieille, hein, voilà, j'ai les cheveux blancs, tout ça. Voilà, je me suis dit, il y a quelque chose là qui est quand même pas mal. Alors, vous avez grandi à quoi dans les années 70, les amis?
écoute, tu commences, Ali?
Ouais, moi c'est principalement les Beatles, Deep Purple, Led Zepp, les grands classiques, Iron Butterfly aussi, j'aime beaucoup.
Moi j'ai fait tous les groupes de prog des années 70 connus déjà, enfin je sais pas, genre Gentle Giant, Genesis, King Crimson, tout ce qui allait autour, et après j'ai creusé plus dans tout ce qui était Canterbury, Rock in Opposition, ce genre de choses-là, les sous-courants du prog des années 70.
Ouais, moi je vais plus être sur, pareil que Lali, un peu plus des grands classiques, Janis Joplin, The Doors, Patti Smith pour beaucoup, beaucoup de Jefferson Airplane dans mes influences aussi, voilà, à Alan.
Bah, en fait, bah, du coup, ils ont à peu près tout dit.
Les coquins. Bah, Chloé, à ta voix, on sent quand même que le côté Janis, hein, y a quelque chose, parce que voilà, il y a. Alors, je sais pas si tu es la fille cachée de Janis, mais en tout cas, il y a quelque chose dans ta voix qui nous ramène à cette folie. Et puis, on sent aussi, à travers ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, cette folie que tu apportes. Alors, effectivement, petite question sur la composition. Comment vous composez alors avec cet apport des années 70, cette voix très rocailleuse de Chloé, qui
Oui.
nous amène quelque chose de. Voilà, moi j'ai adoré ça. Est-ce que c'est d'abord la musique qui vient, ou c'est d'abord vous avez les textes et puis vous tournez autour après avec la musique? Comment vous organisez quand vous êtes en pleine période de compo sur scène à faire test, à faire bêta-testeur à tous vos les personnes qui sont en train de vous écouter?
Ouais, dans la composition, ça dépend des albums aussi, ça dépend de comment on imagine l'album sur lequel on va se lancer dans la composition. Là, je vais vraiment parler spécifiquement de Mindering Soul, où là on a eu une technique de composition qui a été, vu que c'était un concept album, vu qu'on voulait suivre un fil rouge, il y a eu un premier temps d'écriture des textes, d'écriture du concept. J'ai ensuite peaufiné mes textes aussi au fur et à mesure qu'on composait les morceaux, je les ai un peu arrangés, mais de base, on est parti des textes, on est parti d'un concept, d'une histoire qu'on a ensuite mis en musique grâce à des jams, grâce à des idées qu'on a eues tous ensemble, grâce à des idées qu'on avait enregistrées en tournée, puisque quand on est en tournée, on est souvent à jammer, à jouer des trucs dans notre coin, on a des idées qui fusent, on les enregistre tous sur nos téléphones, on réécoute ensuite. Et donc sur cet album-là, on a vraiment suivi les textes, mais par exemple sur l'album précédent, The Freak, on était plus sur on jammait, on avait une idée qui sortait, et puis moi je j'ouvrais mon sac et ah bah j'ai ce texte-là qui irait super bien avec l'ensemble de ce morceau et de ce riff, et puis bam, voilà, on travaillait le morceau autour de ça.
C'est vrai qu'on est parti un peu dans l'autre sens en fait, et là ce que j'ai bien aimé sur cet album-là, sur Mindrexon, c'est le travail de leitmotiv en fait par rapport à l'histoire, où on cherchait. Dans l'album, il y a plusieurs parties en fait qui sont des thèmes qui correspondent à des personnages de l'album en fait. Il y a plusieurs parties musicales qui permettent en fait d'identifier quel personnage apparaît dans l'histoire de cet album en fait. Et donc il y a eu un travail vraiment de se dire ah, faut représenter quelque chose qui fait peur musicalement, ou alors faut représenter quelque chose qui rend léger, naïf, ou alors quelque chose d'un peu plus triste ou mélancolique. Donc il y a un peu ce travail-là de narration qui était très intéressant à faire dans le sens inverse, donc plutôt en apportant la musique après les paroles.
Ouais, avec plusieurs échelles en plus de travail illustration, puisqu'il y avait l'illustration du morceau global en lui-même, avec le paysage, le cadre dans lequel se déroule le morceau, avec ensuite les personnages représentés, et puis ensuite les émotions ressenties, l'ambiance, le rapport entre le protagoniste principal et les intervenants qui entrent en contact avec lui durant l'histoire. Et donc voilà, il y avait vraiment plusieurs échelles en plus d'analyse et de travail, et ça c'était vraiment passionnant à faire.
Oui, en tout cas, pour être transparent avec les auditeurs, c'est un album qu'il ne faut pas écouter qu'une fois, il faut l'écouter. Moi, je l'ai écouté presque 15 fois, là, pour rentrer dedans, pour écouter toutes les... Voilà, il y a tellement de choses, c'est tellement... c'est un album qui est très riche, en fait. Et il y a tellement de choses, il y a tellement de variations, il y a tellement de différences entre un titre et un autre, il y a tellement de... Voilà, il faut l'écouter, le réécouter, le réécouter. Et j'étais incapable, pour l'instant, de faire la chronique, tellement il y a de choses à poser sur le papier pour donner mon ressenti là-dessus. C'est un album, comme vous le disiez, très concept, mais alors je mets en garde, attention, il faudra l'écouter beaucoup de fois pour avoir toutes la finalité de ce qu'a fait le groupe, parce que c'est vraiment un travail fantastique. Ils ont pris du temps pour le faire, moi j'en suis pas encore arrivé au bout, je vais encore le réécouter, et je me promets de faire la chronique. Mais voilà, c'est difficile. Un des titres aussi qui m'a beaucoup plu dans l'album, c'est White Valley, qui est un morceau qui m'a transporté. Alors on peut pas en parler, on peut pas l'écouter encore puisqu'il n'est pas encore sorti. Mais je trouve ce morceau, voilà, il y a deux morceaux, voilà, le Black Circus et le White Valley sont les deux morceaux moi que j'ai vraiment apprécié dans cet album. Est-ce qu'il a quelque chose de particulier dans votre approche, le White Valley, en fait? Parce que je dirais presque qu'il est un tout petit peu différent du reste.
Ouais. Parce qu'en fait, White Valley, c'est un peu le morceau du milieu de l'album qui fait une césure. Il crée une cassure dans l'histoire, puisque là, il y a un basculement au niveau du personnage. Il va vraiment changer d'univers, où vraiment sur les morceaux précédents, le personnage parcourait des péripéties qui lui étaient extérieures et sur lesquelles il n'avait pas de contrôle. Et à partir de White Valley, il rentre en introspection. Et du coup, le cadre change complètement. Il n'y a plus vraiment d'intervenant extérieur, à part vraiment, enfin voilà, on change vraiment au niveau de la narration, c'est vraiment un passage important dans l'album. Et je reviendrai juste sur ce que tu disais par rapport au fait qu'il faut l'écouter plusieurs fois. Bah, c'est très chouette que tu nous dises ça, parce qu'il a été pensé pour. Il a été pensé pour tourner en boucle. Il a été pensé pour qu'on puisse l'écouter plusieurs fois, d'où le riff du début qui revient à la fin, avec ce côté inspiré de l'Ouroboros, mais d'un Ouroboros un peu évolué, qui va évoluer à chaque nouveau cycle, chaque nouveau changement, où à chaque fois on va apprendre de nouvelles choses, tout en ayant tiré les leçons de l'expérience précédente.
En tout cas, c'est une très très belle découverte. Alors je redis aux auditeurs, qui sont nombreux, qui nous écoutent ce soir, donc l'album s'appelle Mindering Soul, il sort le 15 octobre, c'est dans deux grosses semaines, on va dire, hein, pour arrondir les angles, il y en a presque trois, et puis moi je pense et je vous invite à foncer l'écouter. Alors on va juste avoir un petit laus sur la pochette, qui est aussi folle que le reste de l'album. Voilà, alors qui a eu l'idée de cette pochette, les amis, parce que elle est quand même très folle, cette pochette.
C'est le dessinateur. Ouais. Les chansons de base sont très imagées, et on voulait qu'un artiste puisse donner son regard à lui, un regard extérieur en fait à cette histoire, et qu'il puisse le retranscrire dans son style. Et c'est plutôt réussi. C'est Flobaz qui est basé à Nantes qui nous a fait ces illustrations.
Ici c'est semi-aquarelle et semi-numérique.
Tout est fait à la main, et c'est top quoi. Ça rend super bien, et on trouve que par rapport à d'autres pochettes d'albums, c'est assez original quoi.
Il a repris chacun des symboles des morceaux. Il y a deux morceaux de représentés sur cette pochette, les deux premiers. Mm-hmm. Il a repris les symboles issus des textes qu'il a assemblé ensemble à sa sauce, selon son propre ressenti de son écoute.
Bon, en tout cas, c'est voilà, la boucle est bouclée. Ça sera une belle surprise. Foncez, regardez, hein, puisqu'on peut la voir, la pochette. Hein, allez sur les réseaux sociaux, allez sur la page Facebook de Jean, hein, c'est Jean.theband. Vous allez sur la page Facebook, vous allez trouver le clip, vous allez trouver toutes les infos, vous allez trouver plein de belles choses. Voilà, allez regarder la page YouTube, il y a plein de vidéos aussi à regarder. Voilà, c'est hyper intéressant. Alors avec nous en direct, hein, le groupe Jean, alors qu'il y avait, donc on a Chloé Panaleux qui est la chanteuse, on a Alan Guillaumard qui est le batteur, Tom Penaguin qui est le guitariste et Charlie Pales qui est le bassiste. Waouh. Voilà, toute cette petite équipe forme le groupe Jean. Alors les amis, après le 15 octobre, quelle est la suite des événements après la sortie? Est-ce qu'on va avoir la chance de pouvoir vous voir en concert ou on va devoir attendre encore un petit peu?
Alors, pour l'instant, on aura un concert qui sera prévu le 22 octobre. Et ensuite, ça va être assez calme en fait. On n'a pas démarché énormément en fait de lieux. Je suis aussi confronté là, à un souci auquel beaucoup de groupes sont confrontés, c'est que.
Pour l'instant, on attend le merch.
On attend les vinyles et les CD. Et il y a énormément de délais. Oui. Il y a une crise des matières premières là, pour le vinyle qui est effarante là, depuis un bon moment déjà. Et les commandes n'arrivent pas, la production ralentit. Donc pour l'instant, on est encore un peu dans le flou sur la suite, sur les concerts, sur tout ça.
Mais pour l'instant, on a quand même un concert donc, le 22 octobre à la scène Michelet à Nantes. Mmh. On a quelques autres dates qui sont quand même en cours de négociation, de mise en place. Mais effectivement, la suite est floue, quoi. Mais on devrait forcément quand même faire quelques dates en France, en tout cas dans les mois à venir.
On a la dalle, quoi. Faut le dire, on a la dalle, il faut le dire. Oui. Il est temps. Il est plus que temps. Voilà, en tout cas, je vais vous remercier d'avoir pris un temps pour la Strike, pour Vinyl Time, pour venir parler donc de ce Mandering Soul qui sort le 15 octobre. Voilà, il sera disponible, on espère, partout. Et puis on aura des beaux vinyles qui viendront aussi très vite après. Et on fera, moi, je suis Vinyl Time, bien sûr, je suis intéressé par le vinyle. Donc le vinyle sera commandé parce que la pochette, moi, elle me plaît tellement que je veux ça dans ma collection, pour sûr. Les amis, je vais vous remercier. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, un bon week-end. Le mot de la fin pour vous, avez-vous un message pour les auditeurs qui sont nombreux et qui nous écoutent là en ce moment et qui découvrent pour la plupart le groupe Jean?
Merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous découvrent. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, dans le cadre de cette sortie particulièrement, notamment Chronosphère et la Zony Records, ainsi que Morpheus qui nous suivent depuis très longtemps. Merci à toi pour cette interview, nous avoir invités, c'est super cool. Et puis, une très bonne écoute à tout le monde. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours par message, ça nous fera très plaisir.
Eh bien, écoute, on va lancer tout de suite les 6 minutes du Black Circus, qui est le premier album disponible. On va le faire découvrir aux gens. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, comme on est entre nous, je vous dis merde pour la sortie. Voilà, personne n'écoute, hein, tout le monde était, voilà. Donc merde pour la sortie, on se retrouve sur scène avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis on va faire découvrir donc ce Black Circus, extrait du Mindering Soul, qui sort le 15 octobre. Merci à vous et une excellente soirée.